Une rencontre avait lieu jeudi 14 mars 2024 avec Jean-Yves Lorichès, écrivain et professeur émérite de littérature française à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et qui a développé à partir de 2008 une œuvre personnelle publiée aux éditions Le Temps qu'il fait et aux ateliers Henri Dougier. Cette rencontre, animée par Sylvie Vigne, se partageait entre la présentation du dernier livre de Jean-Yves Lorichès, Les réalités premières, paru aux éditions La Guépine, et celle du numéro 89 de la revue Littérature aux Presses universitaires du Midi, consacrée à l'auteur et dirigée par Sylvie Vigne.
Donc bonjour à toutes et tous. J'ai donc le grand plaisir d'animer aujourd'hui une rencontre avec mon collègue et ami Jean-Yves Lorichès autour de deux publications. Alors, un récit personnel de sa main, donc Les réalités premières, qui vient de recevoir le prix littéraire de l'Association régionale des Amis du Limousin, et un ouvrage collectif qui a vocation à lui rendre hommage. Et je suis en train de tout perdre. C'est bon. Et que j'ai eu donc le plaisir de coordonner donc dans la revue Littérature aux Presses universitaires du Midi, dont le directeur est ici. Au péril de ma vie, ou presque, je suis moi-même allée, enfin retournée même à Opédette, dans les Alpes de Haute-Provence qui ont inspiré Giono avant Jean-Yves, pour photographier justement les gorges d'Opédette un jour d'orage, comme dans son roman. Donc la couverture, voilà. Mais ça ne va pas arrêter de... un pantalon glissant. Ouais, c'est gentil, merci. Et donc, c'est un hommage déjà à son dernier roman, qui est peut-être mon préféré, mais c'est quand même compliqué de choisir entre tant de coups de cœur. Le volume collectif, donc, qui a connu quelques aventures mouvementées avec des effets de suspense, réunit les contributions d'une vingtaine d'universitaires, français et étrangers, ayant tous en commun leur estime et leur amitié donc, pour toi. Il avait en effet pour objectif premier, essentiel, donc, de t'honorer après ton regretté départ à la retraite. Retraite d'ailleurs très relative et hyperactive, comme on sait. Comme son titre « Géographie sensible » l'indique, les 20 contributions de ce volume avaient aussi en commun donc, une notion choisie justement parce qu'elle est centrale dans tes écrits, qu'ils soient universitaires ou fictionnels, et cher à ton cœur. Donc, en tant que spécialiste de Jean Giono, de Claude Simon, de Richard Millet, et plus largement de la littérature narrative contemporaine, tu as mis à l'honneur dans tes essais et dans tes autres travaux l'espace et les perceptions sensorielles. Déjà, c'est visible dans tes titres, hein, La bataille des odeurs, L'invention du pays, Écrire le monde rural aujourd'hui. Et tu as aussi publié en 2020, donc aux éditions Classic Garnier, un essai critique portant le beau titre de Ligne de terre, sous-titré Écrire le monde rural aujourd'hui, dont je tiens à saluer l'existence et la qualité, même s'il n'est pas au menu aujourd'hui. Tu viens aussi de publier justement dans la revue Belphégor un addendum à cet ouvrage en te penchant sur Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier pour montrer qu'il contribue à une nouvelle représentation de la ruralité. Suivre l'actualité éditoriale de Jean-Yves, c'est presque un boulot à plein temps. Hein. Et je signale au passage que tu seras demain donc rue d'Ulm à Paris, puisque tu es invité à intervenir dans le séminaire de Michel Collot sur le thème « Vers une géographie sensible ». Littéraire, pas sensible. Séance qui peut être suivie en visioconférence, hein, pour ceux que ça intéresserait. Donc de front avec une carrière universitaire riche, en responsabilité très prenante, tu mènes aussi donc, une étincelante trajectoire d'écriture personnelle avec à ce jour une dizaine de publications, mais tu as peut-être publié pendant la nuit, je ne sais pas, couronnée par de nombreux prix, allant donc des récits de filiation à des romans à composantes oniriques et poétiques, en passant par des études de tableaux de Bruegel, pollinisées par ton imaginaire. Et on y retrouve ton attention passionnée pour les lieux, les espaces, qu'ils soient réels, peints ou rêvés, c'est déjà lisible dans les textes, dans les titres. Hein. Place Monge, l'hiver en Arcadie, la loge de mer, les chasseurs dans la neige, retour à Opédette, et même d'une certaine façon, les pas de l'ombre et un passant incertain. Donc le volumineux dossier publié dans le numéro 89, donc de la revue Littérature aux presses universitaires du Midi, que je resalue, t'invite à des promenades amicalement accompagnées dans une géographie sensible, donc de Virgile à Gisèle Fournier et David Bosque, en passant par Chateaubriand, Stendhal, Georges Sand, Fromentin, Alphonse Karr, Jeanne Bémer-Savant, Georges Sinclair, Bosco, Delteille, Hemingway, Romain Gary, Claude Simon, Jean Giono, Escarpite, Georges Perec, Robert Bobert et Pierre Michon. Donc il y en a qui sont extrêmement connus parmi ces auteurs, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc je me disais que peut-être tu en avais même découvert quelques-uns à cette lecture. Et en outre, donc il n'y a pas moins de 5 articles qui sont consacrés à tes œuvres, donc qui prennent justement comme sujet des tableaux ou des paysages. Donc tu jouis déjà d'une très bonne critique journalistique, très bonne en termes de réaction, mais aussi de profondeur, je trouve. Et donc tu pourrais peut-être nous dire aussi l'effet que produit la critique universitaire, bien qu'amicale, sur ton œuvre non universitaire.
Merci beaucoup, chère Sylvie, pour cette présentation qui m'honore beaucoup trop, hein, mais bon, c'est l'amitié. Il faut mettre ça sur le compte de l'amitié. Et merci aussi à la librairie Ombre Blanche de son accueil une nouvelle fois, puisque je crois que j'ai dû présenter ici tous mes ouvrages un par un, donc c'est une fidélité réciproque entre la librairie Ombre Blanche et moi. Oui, c'est assez singulier. Alors pour le coup, cet ouvrage dont tu parles là, ce numéro 89 de Littérature, c'est une vieille tradition universitaire. Hein. On appelait ça autrefois les mélanges offerts aux professeurs, etc. Et puis, comme le souligne d'ailleurs Sylvie dans son avant-propos, ce terme de mélange souvent recouvrait effectivement un ensemble assez hétérogène où chacun parlait un petit peu de ce dont il avait envie de parler, ce qui n'empêchait pas évidemment qu'il y ait là beaucoup d'émotions, de respect, etc., dans la démarche, mais c'était souvent un petit peu, éclectique. Voilà. Et là, effectivement, ce numéro, j'ai eu donc le temps de le lire, puisque je l'ai eu en avant-première, en quelque sorte, et j'ai été frappé par, effectivement, sa cohérence, grâce au thème choisi par Sylvie, qui est un thème qui m'est évidemment cher. Je crois que, comme il t'est cher aussi, il s'est imposé d'une certaine manière, hein, géographie sensible, en plus le titre est très beau. Et voilà, donc, la revue Littérature, je l'ai dirigée pendant plusieurs années, donc c'est aussi quelque chose d'émouvant pour moi de voir qu'à présent que j'ai passé la main, parce qu'il faut bien quand même laisser un certain nombre de choses que tout le monde puisse aussi s'exprimer à travers des responsabilités diverses. Mais c'est pour moi particulièrement émouvant aussi que ce soit dans cette revue que paraisse cet ensemble de textes. Et j'y ai reconnu, j'y ai rencontré toutes sortes d'amis, parce que ce sont tous des amis. Et c'est d'abord les noms des personnes qui comptent dans un numéro comme celui-ci, hein, avant même les sujets. Et il y a une sorte de géographie de ce numéro qui est aussi la géographie de ceux qui y ont contribué. Et ça, ça me touche parce que il y a effectivement bien sûr il y a des Toulousains, mais il y a aussi des Perpignanais, puisque j'ai enseigné plusieurs années à Perpignan, mais il y a un Bordelais, j'ai passé ma jeunesse et fait mes études à Bordeaux, il y a deux amis écossais, j'ai beaucoup aussi d'amitié pour les Écossais, particulièrement pour ces deux Écossais-là, qui sont par ailleurs des spécialistes de Claude Simon, donc voilà, c'est une géographie. Il y a Toulon, il y a Arras, donc il y a une géographie qui est sensible aussi, qui est une géographie alors de l'amitié. Et puis évidemment, chacun, et là c'est là que la diversité vient enrichir le numéro, chacun a effectivement m'a offert quelque chose sur un de ses auteurs de prédilection, que ce soit Bosco, que ce soit Stendhal, que ce soit que dire encore, beaucoup d'autres. Il y a Claude Simon, évidemment, il y a Giono, Et puis il y a des auteurs contemporains qui m'intéressent aussi, qui sont moins connus que les grands classiques, mais le contemporain me sollicite aussi beaucoup et m'intéresse. Donc voilà, sans entrer dans le détail, j'ai été très sensible aussi à cette diversité dans l'unité thématique. Et je pense que pour les lecteurs, effectivement, à la différence sans doute des anciens volumes de Mélange qui étaient des fois un peu trop variés, là, on a vraiment un très beau sujet et qui est étudié avec beaucoup de sensibilité par tous ses amis. Voilà. En plus, effectivement, quelques-uns m'ont fait l'amitié et l'honneur, surtout, d'écrire sur mes propres livres. Et là, je reconnais que c'est quelque chose d'assez troublant quand on est soi-même, par métier, spécialiste de littérature contemporaine, qu'on étudie les grands textes classiques et aussi les grands textes d'aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des classiques aujourd'hui. Évidemment, on est presque intimidé, presque gêné, enfin, et en même temps heureux hein, de voir qu'on est ainsi travaillé. Et c'est extrêmement éclairant. Enfin, les textes que j'ai lus m'ont beaucoup appris. Parce que, comme je le dis souvent, quand on me demande si, voilà, comment je me débrouille avec le fait que j'étudie la littérature avec les moyens de la critique littéraire, etc., la critique universitaire, et puis que par ailleurs j'écris, alors comment ça se passe? Bon, je dis toujours, dans mon esprit, c'est quand même très dissocié. Quand j'écris, je ne m'auto-analyse pas comme je peux le faire si je lis un texte de Giono ou de Claude Simon. Là, vraiment, ce sont ces amis qui se sont chargés de ce travail-là que moi, je ne peux pas faire et que je ne veux pas faire, mais qui, évidemment, m'a beaucoup, beaucoup appris, en plus du fait qu'il m'a aussi honoré. Voilà.
Merci. Donc, on en vient aux réalités premières, publiées aux éditions La Guépine, une neuve édition, donc ça date de 2012 seulement, qui a été fondée sous l'impulsion d'un petit groupe d'amis, et qui est vraiment une petite merveille. Je pense qu'il aurait beaucoup plu à Julien Gracq, hein, parce que c'est vraiment très très classe. On a une cinquantaine de pages chaque fois, pas plus. Et je pense que tu devais être assez content de la compagnie que t'offrait cette collection, puisque j'ai repéré entre autres Pierre-Louis Combray, Ramu, Colette, Bosco, Marie-Hélène Lafont, et même notre ami Christian Borzewski. Donc il y avait pour tout cela aussi un intérêt donc, et pour le monde rural et un rapport sensible justement au paysage. Dans les réalités premières, tu évoques le plaisir sensuel du contact avec l'herbe et le soleil lors des fenaisons, le plaisir tactile, visuel, olfactif que te procurait le ramassage des noix. Je me souviens de l'écorce fendue dont le vert laissait apparaître le brun frais des coquilles et l'odeur entêtante du brou qui tachait les doigts, mais aussi un intérêt premier remontant à ta plus tendre enfance, donc pour les travaux agricoles. Donc, est-ce que tu peux raconter un petit peu au public la naissance de cet intérêt?
Oui, alors ce livre, ça tombe très bien, effectivement, qu'il paraisse à peu près en même temps que Géographie sensible, parce que c'est un livre de géographie sensible, et en même temps, c'est un livre personnel. Mais il s'est écrit d'une certaine manière dans le prolongement et dans ce qui restait à dire après le livre dont tu as parlé tout à l'heure, en Ligne de terre, qui est l'étude d'un corpus d'une quinzaine d'écrivains contemporains qui ont écrit sur le monde rural, et donc sujet qui m'intéresse beaucoup. Et déjà ce livre-là, je l'avais d'ailleurs dédié à, c'est pas obligatoirement quelque chose qui a frappé les lecteurs, mais pour moi c'était important, il était dédié à Louis, Yvonne et Jeanne Autayé, paysans corréziens. Bon, les lecteurs ont dû se dire, il a certainement dû connaître ce Louis, cette Yvonne et ce Jeannot. Ceux qui me connaissent bien, évidemment, voyez de qui je voulais parler. Mais quelque part, ce n'était pas suffisant. Bon, d'une part, parce que de toute façon, ces trois personnes sont aujourd'hui décédées. S'ils avaient été en vie, ou peut-être en tout cas le troisième aurait pu l'être, il n'aurait pas lu ce livre, bien évidemment. Ni d'ailleurs les romans dont il est question, c'est un fait qu'on peut regretter, mais il y a des fossés comme ça culturels dans la société. Et je ne suis pas sûr non plus qu'il lirait d'ailleurs la réalité première, mais en tout cas, moi, j'avais quelque chose à leur dire à titre vraiment personnel. Et j'avais quelque chose à dire sur, effectivement, dans le fond, des expériences anciennes, premières, qui m'avaient à la fois formé à un certain rapport à la nature, aux animaux, à la ruralité traditionnelle, qui m'avait rendu témoin des derniers feux, comme on dit parfois, j'aime bien cette expression, parce que c'était aussi les feux d'ailleurs des maisons, comme on disait un village à 100 feux, etc., ou 50 feux, les derniers feux de la ruralité traditionnelle, c'est-à-dire la fin des années 60, hein, lorsque, on en reparle beaucoup ces temps-ci, évidemment, avec les problèmes agricoles, lorsque le sociologue Henri Mandrat publie « La fin des paysans » en 1967, hein, qui est une sorte de coup de tonnerre, ou livre très savant par ailleurs, enfin, un livre de sociologue, mais en même temps très émouvant aussi, parce qu'il explique effectivement comment la révolution industrielle de l'agriculture dans les années 60 est en train de mettre fin à une civilisation qui avait certes évolué, mais lentement au fil des siècles. J'avais été témoin de cela, ça m'avait marqué, comme je crois beaucoup, beaucoup d'enfants, je suis très loin d'être unique et je ne souhaite pas l'être d'ailleurs, sur ce plan-là, c'est évident que je pense que beaucoup peuvent s'y retrouver. Ça m'avait aussi orienté vers une certaine littérature, enfin on a parlé de Giono, alors je ne réduirai pas Giono à la ruralité, certes, mais tout de même, le monde de Giono est assez largement un monde des paysans, alors beaucoup plus dans sa première manière dans ses romans d'avant-guerre, mais ça reste chez lui permanent tout de même jusqu'à la fin, cette présence du monde rural. Il en a fait évidemment quelque chose de profondément personnel et imaginaire, il l'a sublimé. Enfin, c'est là, et sans doute mon goût pour Giono a été déterminé au départ, en tout cas, par ce Giono-là, par ce Giono du monde paysan. Donc, ça a été déterminant aussi pour cela, pour mes lectures, et puis ensuite, de fil en aiguille, pour mon travail aussi de chercheur sur Giono, même sur Claude Simon, ce qui pourra étonner peut-être davantage, mais Claude Simon est quand même l'auteur d'un grand roman qui s'intitule « Les Géorgiques », dans lequel la question de la terre et du travail de la terre est extrêmement présente par le détour d'un ancêtre petit noble du Tarn qui est envoyé à sa gouvernante alors qu'il était à travers l'Europe en campagne, hein, sous la Révolution et sous l'Empire. Il envoyait des consignes très précises de culture, etc. Donc tout ça m'a aussi attiré, même chez Claude Simon, ce rapport à la terre. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai beaucoup travaillé sur ces ouvrages-là, mais dans le fond, alors j'avais un petit peu écrit dans un livre plus ancien qui s'appelle Les Brisés, c'est un peu une sorte de livre personnel, de parcours, un peu à partir de l'enfance jusqu'au moment de l'écriture. J'avais un petit peu écrit quelques pages sur des souvenirs comme ça de ce monde rural, et puis il me restait vraiment encore à dire, parce qu'effectivement, alors pour résumé en quelques mots, dans l'enfance et le début de l'adolescence, j'ai beaucoup fréquenté en Corrèze une famille de paysans, une petite exploitation assez dynamique quand même, parce que le fils, donc ce fameux Jeannot, était un paysan qui avait la passion de son métier et qui quand même était attentif aussi aux évolutions. Mais ça restait une polyculture avec de l'élevage et avec aussi diverses cultures. Et donc, à toutes les vacances, absolument, puisque j'y allais en vacances dans la maison de famille, ses voisins, donc, eh bien, je passais la journée absolument chez eux, du matin au soir. Et cela, aux vacances de Toussaint, aux vacances de Pâques, aux vacances d'été, ce qui permettait quand même de suivre toute la rotation des saisons et donc des cultures. Alors, je ne suis pas devenu pour autant spécialiste des questions agricoles ni un paysan. Je ne prétends pas connaître ce monde de l'intérieur. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour des gens comme Marie-Hélène Lafon, par exemple, une romancière que j'aime beaucoup et qui, elle, est née à la ferme et a vécu à la ferme son enfance et qui en parle donc de l'intérieur, de ce monde. Mais je pense qu'il y a une place aussi dans la littérature pour ceux qui en parlent de l'extérieur, mais dans une relation sensible, dans une empathie, dans une sincérité par rapport à ce monde. Voilà. Et donc ce petit livre, qui ne pouvait pas être développé beaucoup plus, je ne voulais pas en faire un roman, Donc voilà, ça a tenu en 50 pages. Et après, j'ai eu le bonheur d'être accueilli par ce petit éditeur, La Guépine, dirigé par Jean-Louis Pierre, qui publie effectivement des textes brefs, aussi bien des classiques rares hein, que des auteurs contemporains, dont Marie-Hélène Lafon, par exemple, entre autres. Et ce format correspondait tout à fait à ce petit livre. Et non seulement le format, mais aussi le côté un peu artisanal de la lecture, hein, puisqu'il faut lire ce livre avec un coupe-papier à l'ancienne. Hein. C'est un des derniers éditeurs qui ne massicote pas ses livres et qui y tient. Donc voilà, si vous avez envie de le lire, il faudra vous équiper d'un coupe-papier ou d'un bon couteau adapté, parce que ce n'est pas si évident que ça, hein, quand on a perdu l'habitude de ne pas déchirer. Il faut y aller doucement, il faut avoir le bon outil. Voilà.
Il y a d'ailleurs déjà quelques auditeurs qui se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas pu tout lire avant qu'on commence à discuter. Parce que, bon, en regardant de travers, ça ne va pas tout à fait, effectivement. Et ça, c'est un autre point commun avec Corti que j'aimais beaucoup découper. Alors, ta mémoire visuelle, auditive, olfactive de ce monde-là est vraiment très vivace, je trouve, pour des temps si anciens quand même. Et j'aurais voulu, s'il te plaît, que tu nous lises déjà un petit passage très sensible, sensuel, qui se trouve page 29-30.
J'ai appris à aimer ces bêtes massives et lentes, aux grands yeux doux, insondables, qui, à l'étable, rejoignaient d'elles-mêmes leur stall. Et attendaient patiemment, en se fouettant de la queue pour chasser les mouches, qu'on leur passe la chaîne et remplisse leur mangeoire. Cette étable, bien que de construction récente, était vite redevenue le lieu organique de toujours, mal éclairée par quelques ampoules à bas voltage et couverte de chiures de mouches, emplie d'odeurs puissantes qui ne s'évacuaient guère par les rares ouvertures, paisiblement animée par le bruissement de la paille piétinée, le souffle humide des naseaux, les mots brefs du travail silencieux. D'abord simple observateur fasciné, j'eus vite le désir de participer à l'ouvrage, à commencer par le nettoyage à la pelle de la paille souillée et de la rigole qui, courant sur toute la longueur de l'étable, recevait directement les lourdes déjections des vaches, le tout recueilli par une brouette et venant grossir, tout au bout, là où s'ouvrait une autre porte donnant sur la lumière encore vive et l'air frais du jour d'été finissant, l'énorme tas de fumier qui servirait l'hiver à engraisser les prés. Devant les stalles courait une allée parallèle donnant accès aux mangeoires et communiquant avec la grange. On portait par brassées le foin odorant que les vaches accueillaient à grands coups de mufle et de langue, qui me faisait reculer prudemment. J'y contribuais autant que je pouvais, mais il m'arrivait aussi de grimper dans le fenil jusqu'au sommet de la montagne de bottes entassées, juste sous le toit de tôle sur lequel le soleil avait tapé toute la journée. Là, je m'allongeais un moment dans le foin, saoulé de chaleur et d'odeur, loin de l'étable, d'où ne me parvenait plus aucun bruit. Puis je redescendais et retrouvais Louis et Jeannot qui, tout à leur travail, n'avaient pas prêté attention à ma disparition. Jeannot était en train de traire une vache à la main, assis sur le trépied de bois, faisant gicler énergiquement le lait dans un seau de fer blanc, et j'ai encore dans l'oreille le bruit d'abord clair du lait dans le fond du seau, puis de plus en plus sourd au fur et à mesure que le jet s'enfonçait dans l'épaisseur mousseuse.
Merci. Très beau passage qui me rend... Je suis très jalouse parce que moi j'avais un gros rhume des foins, donc je n'ai pas pu connaître ces plaisirs sensuels du tout. Et tu gardes aussi dans l'oreille donc, le souvenir de termes techniques, souvent en patois. Alors c'est le terme qu'utilisaient Yvonne, Jeannot, etc. Pour eux, occitan n'existait pas et bon, ils auraient trouvé ce mot trop savant d'après ce que tu dis. Donc tu expliques que les vaches portaient souvent des noms de couleurs, donc la couleur de leur robe, nigre, blounes, roots, jusque-là on suit, je trouve. Et je pense qu'on connaît tous le charme du cantou. Mais tu pourrais peut-être nous expliquer ce qu'est, enfin moi je l'ai lu, mais ce qu'est le Brabant. Pour moi, c'était proustien, Brabant, mais et le bigot, et ce que veulent dire mérandé, à quoi servait l'exclamation, je ne sais pas la prononcer, H, oui, Aoshi.
Oui, alors ça, ce sont des mots que j'ai dans l'oreille, hein, effectivement. Alors, quand j'étais, à l'époque où je fréquentais Cette famille de paysans, je n'avais aucune notion de ce qu'était l'occitan, l'occitanisme, etc. C'est venu après, hein, je dois dire. J'en parle parfois avec notre ami Jean-Yves Casanova, professeur d'occitan à Pau. Parce que effectivement, dans mes années d'étudiant, alors à Bordeaux, c'était les années 60, voilà, à partir de 73 et suivantes, l'occitanisme était très présent. Et là, je m'y suis intéressé alors d'un autre point de vue à cette culture. Et les deux, du coup, se sont rejoints. Mais quand j'étais enfant, non, c'était effectivement, j'entendais ces mots. Donc le mot utilisé par les paysans était et par les villageois était patois, effectivement, qu'ils utilisaient, bon, sans avoir particulièrement le sentiment d'être méprisés, même si, bon, les sociologues nous ont expliqué à juste titre qu'ils avaient probablement intégré quelque part l'idée que de toute façon cette langue n'était pas une langue aussi respectable que le français, qu'elle était à usage purement privé, mais ils s'en fichaient à peu près complètement. Enfin, ce n'était pas pour eux un problème. Ça servait surtout donc à parler entre eux, à parler aux animaux également. Avec moi, non, mais j'entendais évidemment des mots et je les retenais. C'était une musique différente. C'est un apprentissage de la différence. De toute façon, moi, j'étais un enfant des villes. On habitait à Bordeaux. Donc, aussi bien pour la langue que pour toutes les autres réalités qui allaient avec, parce que la langue servait à désigner aussi les animaux, les outils, etc. Pour toutes les réalités qui suivaient avec cette langue limousine, c'est un dialecte limousin, eh bien, pour moi, c'était un apprentissage de l'altérité. Et j'ai gardé cette musique dans l'oreille, oui. Alors, effectivement, et comme moi-même, j'accompagnais le troupeau, donc à certains moments, je prenais plaisir aussi à appeler les vaches par leur nom, puisque chacune avait son nom. Et alors souvent, dans cette famille en tout cas, c'était par la couleur. Et comme il y avait des vaches de différentes races, il y avait des hollandaises, c'était plutôt des laitières, donc j'ai retenu tout ça, hein, les laitières, donc avec taches noires et blanches, donc on les appelait nigres, c'était le noir qui l'emportait, mais elles étaient en fait noires et blanches. Les blondes, c'était les limousines, une très belle race qui est plutôt une race à viande, hein, voilà. Il y avait les normandes, voilà, qui elles étaient tachetées, qui étaient plutôt des laitières. Et puis il y avait alors les vaches chères à Marie-Hélène Lafont, selon elle, mais elle était partie prise, ce sont les plus belles du monde, les vaches de Salaire, hein, les vaches auvergnates à des très grandes cornes en lyre. Mais il n'y en avait plus beaucoup parce que ça avait été longtemps des vaches plutôt de trait, c'était des vaches très robustes de montagne qui avant le tracteur tiraient les charrettes et les charrues. Donc tout ça, je me servais moi-même de ces mots en accompagnant le troupeau. Et puis j'entendais effectivement, Mérandais, c'était, voilà, j'ai appris plus tard que c'était, voilà, c'était Méridier, c'est le repas de midi. Qui vient directement du latin. Que dire ? Le Brabant, alors ça aussi, c'est un terme technique qui désigne la charrue, mais la charrue accrochée, en fait fixée au tracteur derrière. Hein. C'est-à-dire, c'est un progrès technique du labourage, le Brabant fixé au tracteur. C'est pas la vieille charrue traînée par les animaux de trait. Quoi encore ? Le Bigot, c'est une fourche à deux pointes qui sert à déterrer en particulier les pommes de terre. Voilà. Donc tout un petit lexique, hein, que j'ai emmagasiné, et comme j'avais le goût des mots, bon, on l'a tôt, hein, quand on devient littéraire après, généralement ça a commencé tôt. Donc j'avais le goût des mots, j'avais le goût de ces variations, de ce chant, cette musique, de ce que Richard Milly appelle la petite langue, à quoi il ne faut pas attribuer une signification condescendante, mais parce que c'était une langue familière et d'usage. Et bon, ensuite, les revendications occitanistes ont voulu en faire une langue qui serait un peu la même dans tout le sud de la France, mais c'est un peu une construction, disons, plus politique. Alors que culturellement, cette langue avait subsisté, malgré le fait qu'elle était effectivement bannie de l'école, avait subsisté dans les campagnes comme langue vernaculaire, et souvent d'ailleurs avec des variations, parfois même dans une même région, d'un canton à un autre.
Alors, c'était un peu contagieux parce que...
Aoshi. Je tiens beaucoup à Aoshi. On ne peut pas ne pas parler d'Aoshi. Alors, je dis tout de suite, s'il y a des Limousins ici, il y a des variations. Hein, dans cette... Parfois, c'est Aoshi. Donc, je ne ferai pas du tout de polémique sur cette question-là. Mais Aoshi, ça, c'était une manière de chasser le chien. Voilà. Ce qui est nécessaire parce que les chiens de ferme sont très agaçants. C'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt... Alors, soit ils réclament toujours à table, ils viennent essayer de grappiller ceci ou cela, donc il faut les chasser. Même dans leur travail, il faut souvent les réfréner parce qu'ils s'amusent à mordre les pattes des vaches. Et alors, du coup, ils mettent le troupeau en débandade, c'est une catastrophe. Donc ce Aoshi servait beaucoup. Et je l'ai donc souvent entendu, en particulier pour un chien que je nomme lui aussi. Alors, je ne vais pas dédier ligne de terme, j'aurais pu l'ajouter. Il s'appelait Mouton. J'ai aucune idée de la raison pour laquelle, mais tous les chiens s'appelaient moutons dans cette famille. Bon, j'ai jamais su pourquoi. Et il avait une patte folle. Il avait été heurté par une voiture. Il s'en était très bien sorti, mais il courait, mais sur trois pattes, avec la quatrième devant qui était un petit peu en hauteur comme ça. Voilà.
Mais il y a de quoi être claudiquant, se faire appeler mouton quand on est un chien de berger.
Il y a un problème d'identité, je
ouais,
pense.
Je pense aussi. Et donc, j'avais aussi Brabant en tête, etc. Et j'ai cru voir une propriété gersoise qui portait ce nom. Donc, j'étais tout émerveillée. En fait, c'était Barbant, ce qui est beaucoup moins bien. autrement, il y a des allusions, pas des photos, mais des descriptions de photos dans Réalité Première. Et donc, ça rejoint un intérêt que tu manifestes dans beaucoup de tes autres écrits. Donc, les photographies, les seules qui existent d'Yvonne, de Jeannot et de Louis, ont été prises par toi. Et tu les décris de manière tellement précise qu'on a l'impression d'être dans un documentaire de Depardon, mais immobilisé. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces photos et nous dire d'ailleurs si tu es resté photographe aujourd'hui? Je ne te l'avais jamais demandé.
Alors, non, enfin, j'aime prendre des photos, mais je ne me considère pas du tout comme photographe, mais j'ai gardé quand même le goût de prendre des photos. Ouais. Mais mon grand regret, c'est de ne pas avoir de photos justement de cette période où j'allais faire ces travaux des champs. Ouais. Et je n'ai pas de photos, tout simplement parce que personne n'en prenait. Mes parents, ils me laissaient aller, ils me laissaient filer toute la journée. Donc, ils avaient parfaitement confiance et tout se passait très bien. Parce que mes parents, eux, prenaient volontiers des photos. Mais bon, tout ça se déroulait. Et c'était aussi le charme de ça, même si j'étais très heureux en famille. Mais enfin, c'était la liberté, c'était un autre contexte. Et les paysans eux-mêmes n'avaient pas d'appareil photo. Donc, tout ça est resté dans la mémoire, ce qui finalement d'ailleurs n'est pas plus mal. Parce que comme tu l'as souligné, c'est resté en même temps très, très précis dans ma mémoire. Mais en revanche, un peu plus tard, c'est-à-dire quand j'étais étudiant, quand j'ai eu un premier appareil photo, donc là je faisais vraiment beaucoup de photos, là j'aimais bien, j'aurais pu aller continuer un peu davantage, j'avais quand même un goût vraiment de la photographie. Mais j'avais acheté un appareil Minolta, donc un bel appareil réflexe, etc. Et là, j'avais demandé à Louis et à Yvonne si je pouvais les prendre en photo. Ça ne va pas de soi hein, de demander à des paysans, enfin à qui que ce soit, mais les paysans sont quand même assez, je dirais pas méfiants, mais réticents par rapport à tout ce qui peut... alors, on n'est pas... Ce n'est pas les Indiens d'Amérique du Sud, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, il y a ce côté un peu archaïque dans cette vieille culture paysanne qui fait qu'être pris en photo, c'est quand même un peu donner son image et qu'est-ce qui va en être fait. Mais comme avec moi, ils étaient en pleine confiance, puisqu'on avait effectivement tout ce passé où ils avaient accompagné, ils voyaient bien que ma démarche n'était pas du tout voyeuriste. Et donc, ils ont accepté de poser pour moi devant leur ferme. Et j'aime beaucoup cette photo que j'ai mise d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le site internet que j'ai fait, à titre un peu d'archive. Et c'est une photo vraiment que je trouve très caractéristique, en dehors du fait qu'elle me rappelle à moi, évidemment, deux êtres que j'ai beaucoup aimés, qui étaient un peu sorte de grands-parents, en fait, même si c'était pas, il n'y avait pas de relation familiale, mais c'était un petit peu ça. Ils sont là, ils sont vraiment en face, voilà, tel qu'effectivement je l'ai décrit dans le livre. Dans leur regard, on sent cette confiance. Voilà. Et puis Jeannot, je l'ai pris, lui, dans son travail. Alors, c'est tout à fait différent. Il est sur son tracteur, ça aussi, j'aime beaucoup. Alors, c'est une photo plus vivante, mais c'est et qui lui convient bien à lui, parce que c'était quelqu'un qui était toujours en activité, qui était un énorme travailleur, hein, comme l'étaient souvent les, comme le sont souvent de manière générale, toujours, hein, les gens de la Terre. Hein, voilà. Donc voilà, j'ai rattrapé un petit peu, finalement, quelques années plus tard, ce que n'avait pas pu être pris et qui finalement ne devait peut-être pas être pris au moment où j'étais vraiment dans l'action avec eux.
Alors, je ne sais pas si vous avez lu Les Deux Beunes de Pierre Michon, mais on a une Yvonne dans Les Deux Beunes qui est vraiment des années-lumière de ton Yvonne, qui est toujours en tablier, qui reste debout pour servir les hommes et qui prend très bien que son mari, quand elle prend la parole, lui dise « Tais-toi, pauvre femme ». Bon, pas très woke, mais bon. Mais tu montres simultanément que c'est une maîtresse-femme et tu emploies même l'expression jionienne « dame forte ». Tu veux en parler un peu ?
Oui, alors j'ai parlé aussi de cet aspect humain, parce que bon, j'y parle effectivement des bêtes, des cultures, etc. Mais je me suis aperçu, alors peut-être avec plus de recul pour le coup, que ça avait été aussi une expérience, pas simplement humaine au sens affectif du terme, ça c'était vraiment, je crois qu'il m'aimait bien, et c'était, on le sentait, mais humaine au sens où il y avait là une famille, avec aussi ses personnalités, avec ses difficultés, voire ses drames. Il m'a paru important d'en parler, donc j'en parle un petit peu dans la fin du livre. Et j'en parle à partir de ce que j'ai vu, mais peut-être plus encore aussi à partir de ce que j'entendais dire par mes parents, qui eux-mêmes donc connaissaient bien ses voisins, connaissaient bien la situation, et donc en parlaient de manière assez, avec une certaine gravité. Voilà, c'est en fait le cas de figure là aussi qu'on trouvait assez régulièrement dans les campagnes, c'est-à-dire comment donc il y avait un fils et une fille. Hein, Jeannot et Marcel. Marcel, j'en parle peu parce que quand elle s'est mariée, elle est partie rejoindre la ferme de ses parents, pas très loin, hein, quelques kilomètres, mais enfin, elle n'était plus dans la famille, elle travaillait dans la ferme de son mari, donc je la voyais de temps en temps. Donc il restait Jeannot qui, lui, avait vocation, enfin, avait repris la ferme et travaillait avec son père. Le père continuait à travailler bien au-delà de l'âge de la retraite, qui à l'époque, de toute façon, était plus tardive, et puis pour le paysan, n'arrivait pas vraiment. Donc, Jeannot s'est marié, et là, s'est posé la question de l'intégration, effectivement, de ce qu'on appelait traditionnellement la bru, hein, donc la belle-fille, dans la famille. Et là, c'est là que l'âme forte, Yvonne, donc, a déployé toute sa force, mais sa force de résistance à l'intégration de cette étrangère. Sachant que, bien sûr, tout le monde cohabitait dans la même ferme, hein, où les jeunes, bien qu'ayant eu des velléités à un moment de s'établir dans une autre maison ou de faire construire une maison, étaient finalement restés dans cette ferme, qui n'était en plus pas très grande, hein, donc dans un espace assez réduit. Et alors, autant le père et le fils s'entendaient bien dans le travail, autant effectivement la belle-mère et la belle-fille, ça a été très difficile. Et comme la belle-fille était d'un tempérament plutôt gentil et pas beaucoup de défense, voilà, les choses se sont mal passées et finalement ça a fini par une dépression nerveuse de la belle-fille. Donc, elle est revenue dans sa famille et j'ai vu ensuite Jeannot vieillir, hein, s'occuper de sa vieille mère, finalement vieillir seul et mourir vers l'âge de 80 ans, mais isolé. Enfin, voilà. Donc ça, ça me paraissait important aussi dans ce livre qui peut apparaître à certains égards comme un peu nostalgique, c'est-à-dire c'est vrai que ce monde rural, pour un enfant des villes vu de l'extérieur, avait beaucoup de charme. Le charme, justement, de cette vie animale, de ces récoltes. Et puis, il y avait aussi une part d'ombre. Hein, bon, d'abord, la rudesse de la vie, bien sûr, la rudesse du travail. Et puis aussi, la complexité des relations humaines. Alors, c'était soit le le fameux thème du célibat paysan, enfin, qui s'est accentué par la suite. À l'époque encore, je pense que les hommes trouvaient encore épouse, comme on dit. Bon, après, progressivement, ça a été de plus en plus difficile. Mais de toute façon, voilà, il y avait des situations complexes. Et je voulais que dans ce livre aussi, cet aspect soit présent pour ne pas donner aussi l'image d'un monde idéal, qui n'était pas, évidemment. Mais c'était un monde riche, disons, riche et complexe aussi.
J'ai pensé justement, en te lisant à l'annonce de Marie-Laine Lafont, même si la fictive Annette s'en sort mieux, beaucoup mieux que la fragile Odette. Et donc un autre point commun, effectivement, avec Marie-Laine Lafont, c'est le fait que tu n'idéalises pas ce monde paysan. Tu parles de la cruauté, de la dureté de certains labeurs, de la précarité des habitations, des odeurs puissantes, des rubans tu mouches. Donc on a une vision qui est quelque part objective, comme dans le passage que tu as lu tout à l'heure, où il y avait à la fois l'odeur et du foin, et puis le bruit merveilleux de la coulée du lait dans le seau, et en même temps donc le fumier, bon, tout était mélangé. Donc tu es très modeste en disant que tu n'as pas d'expertise vraiment sur ce monde, mais tu as quand même vraiment partagé ces travaux. C'est pas souvent, je pense, que les enfants se jettent comme ça sur les brouettes pour enlever le fumier, et au point que le village narquoisement disait que cette famille avait trouvé une main d'œuvre bénévole, pas chère, donc c'est, et on sent donc que c'est donc quelque chose de vraiment sérieux. C'est pas du tout un caprice, un attachement donc durable et fondateur. Donc, pour reprendre tes termes, je cite, les expériences de l'enfance sont fondatrices, comme les lectures, et je mesure aujourd'hui ce que je dois, dans mon rapport aux choses de la terre, comme dans mes goûts littéraires, à toutes ces heures passées aux côtés de ces gens si différents de ceux que je fréquentais dans la vie ordinaire, partager leur travail et leur table, à reproduire leurs gestes, à parler peu, comme eux, mais un regard suffisait à signifier qu'ils m'aimaient bien. Et tu ajoutes, donc justifiant ton titre, avoir été dans ton enfance marqué en profondeur par le contact avec des réalités matérielles absolument nouvelles. Et je crois que je peux lire sans risque de grave divulgachage la si émouvante dernière phrase lorsque tu revois longtemps après donc le jardin de ton enfance. Je pensais à l'enfant qui le traversait en courant pour rejoindre le monde des réalités premières. Et donc, si tu veux bien, j'aimerais que tu lises un autre passage qui se trouve page 34-37. C'est moi. Je le tiens sur mon cœur. Pour finir, page 34, à partir de si la fameuse et jusqu'à très nouvelle.
Si la faneuse retournait l'herbe mécaniquement, on alignait encore les andins avec de grands râteaux de bois obliques, et pour cela, femmes et enfants étaient sollicités, donnant au foin un tour plus collectif que pour d'autres travaux. La transformation de l'herbe verte et lourde couchée par la barre de coupe en un foin blond et comme aérien, volant dans le soleil de l'après-midi, est l'une des transmutations les plus magiques qu'il m'ait été donné de voir, d'autant qu'elle s'accompagnait d'odeurs enivrantes. Tout finissait cependant, craché par la machine en lourdes bottes ficelées, le rouleau n'existait pas encore, que Jeannot chargeait ensuite du bout de la fourche, Louis les recevant sur la remorque pour les placer convenablement, après quoi l'on s'acheminait vers la grange, et mon bonheur était de faire parfois le voyage juché au sommet de ce chargement de foin qui tanguait dans l'air du soir. Mais si les foins étaient les travaux majuscules, par la sorte de fièvre qui s'emparait alors du village entier jusqu'à ce que tout soit à l'abri, ils ne sont pas les seuls à avoir laissé en moi des impressions fortes. De certains, je ne pouvais être que spectateur. Ainsi, des labours, d'ailleurs limités, dans cette vallée surtout couverte de prés, à quelques champs pour le maïs ou les topinambours destinés aux bêtes. Je me souviens avoir appris de la bouche de Jeannot le mot brabant, désignant la charrue, fixée à l'arrière du tracteur, que je suivais à pied pour voir la terre s'ouvrir humide et grasse sous le soc d'acier, et lui conduisant d'une main, l'autre agrippé à la barre du dossier pour regarder en arrière et assurer la rectitude du sillon, puis Louis semant à la volée, geste millénaire, et pour finir la herse égalisant la terre comme une grande page effacée. Ce devait être aux vacances de Pâques, et l'été, je retrouvais le maïs plus haut que moi, ses tiges et ses feuilles rêches, entre lesquelles je me glissais comme dans une forêt bruissante, cherchant les épis pour le pur plaisir de la couleur jaune, du contact des grains durs et serrés, et de ses étranges cheveux de poupée primitive, pendant que Jeannot attaquait le champ à grands coups de faucille. Après seulement, je pouvais aider à porter par brassée le maïs coupé sur la remorque du tracteur, d'où il débordait de tous côtés, traîne verte.
Vous avez à la fois le directeur de la revue, le directeur des presses universitaires du Midi, l'ancien directeur de la revue. On est tous là.
Et la coordinatrice du numéro.
Et l'honoré, oui. On l'a appelé honoré. C'est pas obligé que ce soit des questions. Hein. Vous pouvez faire des commentaires.
Ou évoquer des souvenirs.
Est-ce qu'il y a des paysans dans la salle? Bon, j'avais gardé du temps. Ah, merci Patrick.
Il y en a un autre là.
Oui, on a presque exactement le même âge, hein, donc on a effectivement connu les mêmes époques, et même si je n'ai pas eu l'expérience que tu as pu avoir, mais effectivement, on est probablement la dernière génération à avoir connu ce qui pouvait être encore finalement les derniers restes de la paysannerie qui était quasiment encore dominante entre les deux guerres et qui s'est effacée, effectivement, comme tu l'as dit, au cours des années 60, qui a quasiment disparu dans les années 70. Est-ce que tu as des souvenirs, justement, plus archaïques encore, c'est-à-dire des traces de chevaux, de... Alors, les vaches, oui, mais on est en pays limousin, basse-cour, avec port en liberté, comme on pouvait effectivement rencontrer. Moi, j'ai rencontré ça, hein, quand j'étais tout jeune. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre qui t'a également frappé?
Alors, j'ai des souvenirs effectivement, avant, alors que je fréquente assidûment la ferme, des souvenirs non plus anciens, d'attelage, oui, de vaches. Hein. C'était un pays de vaches, hein, pas de chevaux. Aucun chevaux dans cette région-là. Il y a vraiment des régions à chevaux et des régions à vaches. Aucun chevaux, mais en revanche, des vaches de trait, oui, qui... Ça, j'ai l'image effectivement de ces vaches, ce joug. C'est assez impressionnant pour un enfant, ces deux vaches réunies par un joug comme ça, et qui, avec les mouches aussi qui les assaillaient, enfin, souvent avec, elles avaient une protection sur les yeux. C'était et du coup, alors à cette époque-là, effectivement, qui est donc plus ancienne que celle où j'ai été actif dans l'agriculture, il y avait non seulement donc les attelages de vaches, mais aussi par exemple le foin qui se rentrait, comme on disait, en vrac. C'est-à-dire, c'était avant les botteleuses que j'ai connues ensuite, qui était déjà une mécanisation. Donc avant le tracteur et avant les botteleuses. Et ce passage, alors c'est fait selon les régions d'ailleurs, pas au même moment. En Corrèze, il a dû se faire effectivement à peu près au milieu des années 60. C'était variable aussi. Il pouvait y avoir des fermes toutes petites où on n'avait pas investi, on n'avait pas pu investir ou pas voulu investir dans un tracteur et où on continuait. Donc les deux ont coexisté. Donc ça j'en ai effectivement le souvenir de quelque chose de plus ancien. Et je me souviens de ces charretées de foin où vraiment le foin pendait. On voit ça sur les photos. Le foin pendait de tous les côtés. C'était très, très beau en même temps, mais en même temps, il fallait faire beaucoup plus de voyages. Et puis, pour entreposer aussi, il fallait plus de place. Enfin, on voit bien comment cette motorisation, surtout, parce que la mécanisation était plus ancienne, mais cette motorisation a quand même beaucoup facilité le travail paysan. Donc, il ne faut pas non plus regretter les attelages de vaches et le foin rentré en vrac. Donc, ça j'en ai le souvenir. Et du coup, effectivement... moi, quand j'ai commencé à participer à ces travaux, il y avait aussi ce quelque chose de nouveau qui était, à quoi un enfant pouvait être particulièrement sensible, c'était aussi le prestige de la machine quand même. C'était les tracteurs. Je crois que c'est le tracteur qui m'a d'abord séduit et donné envie de suivre, quoi. Voilà. Parce que c'était très étrange, un tracteur, quand même. Alors, on l'a vu récemment. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Ces cohortes de tracteurs qui marchent sur Paris, enfin, c'est absolument hallucinant. Quoi.
C'est des tracteurs ultra modernes, alors, climatisés.
Maintenant, voilà, ils sont énormes, ils sont informatisés, ils ont de toutes les couleurs. Bon, à l'époque, c'était des petits tracteurs qui ressemblent, quand on les compare aux tracteurs d'aujourd'hui, on dirait des sortes d'insectes. Enfin, ils paraissent tout maigriots. Il n'y a même pas de cabine. Il n'y avait aucune protection aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que si le tracteur versait, il y avait régulièrement des accidents mortels, hein, dans les pays de montagne, parce qu'il n'y avait aucune protection pour le conducteur. Mais c'était quand même la machine, avec le bruit, avec les odeurs d'huile, avec les problèmes mécaniques aussi, etc. Et ça me plaisait beaucoup. Donc je ne regrette pas d'avoir connu le temps du tracteur, même si, évidemment, il y a une sorte de poésie romantique, hein, de l'attelage de bœufs qui rentrent au soleil couchant. Voilà. On pense à des textes du 19e siècle.
Georges Sand, par exemple.
Je ne sais pas, Fabienne était là, je ne sais pas si elle est toujours là. Voilà. Georges Sand, par exemple.
J'ai remarqué que, enfin, vivant à la campagne, il y a les paysans d'aujourd'hui, ce qu'il en reste, le pourcent de Français qui reste, je crois qu'on est même en dessous, une fascination pour les vieux tracteurs, de manière générale. Il y a des revues de vieux tracteurs, beaucoup de paysans y sont effectivement abonnés. Donc voilà.
Oui, ça devient comme les vieux tacos, comme les vieilles voitures. Là, il y a eu un changement, il y a eu une nouvelle génération.
Oui, moi aussi, j'ai des souvenirs comme ça de citadins, de petits citadins à la campagne où habitaient mes grands-parents. Et j'ai un certain nombre de souvenirs, mais des années 70, un peu plus tardifs, c'était des fermes plus modernes, c'était aussi des vaches laitières, et je me rappelle aussi l'odeur du purin. Le seau, c'était exceptionnel. Enfin, c'était pour eux qui se faisaient, mais sinon, c'était déjà des espèces de machines.
Les treilleuses,
oui. Électriques, mais qui étaient aussi assez fascinantes. Moi, je partage cette fascination-là. Mais... j'étais cette expérience aussi d'avoir grimpé sur les, comme beaucoup, j'imagine, hein, dans les granges, sur les bottes de foin, se cacher. Enfin, c'était extraordinaire quand j'avais 10 ans, quand j'étais gamin. Mais je me rappelle aussi avoir beaucoup parlé avec ma grand-mère, donc qui s'était mariée avec un postier, mais qui était d'origine paysanne, en fait, dans le Lot. Et mon autre grand-mère, qui était d'origine paysanne aussi, qui était institutrice, elle, mais dans le Vercors. Et en fait, je me rappelle, j'étais fasciné par les récits que me faisait ma grand-mère du Vercors, parce qu'elle me racontait comment était la vie à la ferme dans la montagne. Et c'était de la montagne, enfin, c'était déjà c'est un peu de la vraie montagne quand même par là-bas, dans les années 1910, donc avant la guerre de 14, et où il n'y avait pas d'électricité, où ils passaient l'hiver, en fait, ils passaient les veillées à casser les noix, je me rappelais, parce que les noix entières, ça avait une valeur forte, enfin, ça se vendait assez cher aux pâtissiers du coin, enfin du coin, dans la vallée, hein, parce que c'était... Est-ce que c'est... Et donc moi, c'est un imaginaire qui s'est constitué beaucoup à travers des récits de mes grands-parents. Et est-ce que au-delà de ton expérience directe dans la ferme, est-ce que c'est passé aussi par des récits comme ça, indirects, soit de cette famille-là, soit de... Bon, je sais pas.
Alors, pas tellement, justement. Alors, un petit peu... Bon déjà, du côté de mon père, mais je n'ai pas connu mes deux grands-parents. Mon grand-père paternel a été tué à la guerre de 14. Ma grand-mère est morte quelques années après. Du côté de ma mère, ma grand-mère maternelle me parlait un peu de ça parce qu'elle avait connu effectivement un peu ce monde donc en Corrèze. Mais c'était plutôt ce qu'elle m'a transmis, c'est plutôt une sorte de fabliau en patois dont j'ai retrouvé récemment la transcription. J'avais transcrit à l'époque et j'avais bien fait. Parce que j'ai consulté des occitanistes et ils ne connaissaient pas ce texte. C'est un texte vraiment intéressant qui est dans un contexte un peu médiéval. C'est C'est l'histoire d'un paysan qui roule le seigneur, en fait. Alors ça semble venir d'assez loin, à moins que ce soit quelque chose de reconstitué au 19e siècle, ce qui n'est pas impossible. Mais c'est Fabliau, donc en patois limousin, c'est elle qui me l'avait transmis. Elle le tenait elle-même de sa mère. Et donc là, oui. Mais pas tellement, même si effectivement, en remontant dans cette famille-là, il y avait des paysans, mais non, c'est plutôt l'expérience directe. Voilà. Mais c'est vrai que souvent, c'est par les grands-parents que ça se transmettait, et même d'ailleurs la familiarité avec ces réalités-là. Les vacances, les grandes vacances, qu'on appelait les grandes vacances autrefois, qui étaient vraiment très grandes, et à une époque où souvent il y avait moins de possibilités de partir en vacances, de faire du tourisme, d'aller faire des voyages, etc. Puis les parents travaillaient souvent. Bon. Donc on envoyait les gosses à la campagne. Donc c'est bon, quelque chose qui est peut-être moins vrai aujourd'hui. Il n'y avait pas de centre aéré, il y avait les colonies de vacances. Mais, bon. Mais quand il y avait des grands-parents à la campagne, c'est là que ça se passait. Mais moi, ça a été différent parce qu'effectivement, il n'y avait pas de ferme vraiment dans les ascendants. Mais souvent, c'est par là que ça passait.
Une petite dernière, Lydie. Ah. Pardon, oui.
Oui, je suis très touchée par tout ce que tu as lu et raconté, parce que c'est vrai que moi, je suis par contre vraiment de la campagne. C'est mes fondations. Tu m'entends? Oui.
Oui, très bien.
Oui, et c'est vrai que oui, je suis des Vosges. J'ai vraiment passé mon enfance dans les Vosges. Et je suis vraiment de la campagne. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une question. Enfin, quand vous parliez des tracteurs tout à l'heure, je pense que le tracteur de mon père, un vieil Anomag des années je ne sais plus combien, se retrouve dans un musée aujourd'hui, en Alsace. Et ce que je voulais dire aussi, c'était, est-ce que tu avais assisté à tous les rituels aussi où on tue les animaux, enfin, l'élevage des lapins? Non, je dis ça parce que dans la littérature de la campagne, enfin, rurale, c'est souvent des morceaux de bravoure que d'écrire justement ces épisodes où il y a plusieurs fermes qui participent, beaucoup de membres du village, pour tout de suite recycler tout ce qui vient du cochon. Alors, mais moi, j'ai jamais vu ça étant enfant vraiment, parce que les enfants n'avaient pas le droit d'assister à la mort du cochon. Mais par contre, j'assistais à tout ce qu'il y avait, les rituels autour. Oui.
Alors, effectivement, alors j'ai beaucoup trouvé ça effectivement dans la littérature, hein, dans mon essai « Ligne de terre », là, j'ai tout un chapitre là-dessus, parce que à peu près dans tout mon corpus, il y a effectivement plus ou moins développé des récits, hein, de ce... Il y a un très beau livre, d'ailleurs, de Robert Marteau, qui est un écrivain et poète vendéen, poitevin plutôt, d'ailleurs, hein, des Deux-Sèvres, par ailleurs grand poète, hein, couronné par l'Académie française, etc., mais qui a écrit un livre qui s'appelle Le jour qu'on a tué le cochon. Et c'est un livre beaucoup plus complexe que le meurtre du cochon, parce que se greffe là-dessus une autre histoire. C'est un très beau livre. Mais j'ai eu la chance de ne pas y assister. Je pense que certainement mes parents ne souhaitaient certainement pas que j'y assiste. Les voisins non plus, certainement. Hein, tu disais toi-même, donc en général, on n'appelait pas volontairement les enfants pour assister à ça. Mais en revanche, je n'ai pas pu échapper au cri du cochon. Ça, je m'en souviens quand même. C'était en plus, ça tombait aux vacances de Pâques, hein, souvent. Et donc, on était en Corrèze à ce moment-là. Et je me souviens, la ferme était juste au-dessus de notre maison. Et je me souviens avoir entendu ces cris. Et déjà, c'est quand même assez suggestif. Dieu merci, ça n'est pas allé plus loin. J'ai pas eu l'impression que ça ait donné lieu dans la ferme à des festivités, effectivement, particulières. C'était une famille qui vivait un petit peu sur elle-même, qui était fâchée avec ses voisins, enfin bon, comme ça arrive dans les villages, hein, mais il n'y avait pas vraiment dans le village un très grand esprit communautaire. Chacun bon, faisait son, ses affaires de son côté. Et donc, voilà, après, il devait effectivement faire tout ce qu'il faut faire pour exploiter toutes les parties du cochon, comme il se doit, pour l'année. Et ça, j'aimais beaucoup, après, le résultat. Hein, l'andouille corrézienne, qui n'a rien à voir avec les andouilles qu'on peut trouver ailleurs, qui ne correspond à rien de ce qu'on trouve ailleurs. Ou le petit salé, etc. Ça, j'aimais beaucoup. Donc je... Mais en revanche, j'ai échappé à la passion du cochon.
Voilà. On reste sur l'agonie du cochon ou... Merci beaucoup et merci.
Merci à toi.
Il s'agissait d'une rencontre enregistrée le 14 mars 2024 à la librairie Ombre Blanche consacrée à Jean-Yves Lorichès à l'occasion de la publication de son dernier livre « Les réalités premières » édition La Guépine et du numéro 89 de la revue Littérature publiée aux presses universitaires du Midi et dirigée par Sylvie Vigne. Jean-Yves Lorichès a aussi fait paraître récemment « Retour à Opédette » en 2021 aux éditions Le Temps qu'il fait et Les Noces Rouges selon Bruegel en 2022 aux ateliers Henri Dougier. Réalisation et mise en onde Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.
Thank you.